Le débat du jour, Guillaume Nodin.
Bonjour ou bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans le débat du jour. Les négociations commerciales entre la Chine et les États-Unis reprennent cette semaine à Washington. Les tensions entre les deux premières économies de la planète durent depuis des mois maintenant et les premiers droits de douane imposés par Pékin et Washington commencent à peser sur l'activité économique et inquiètent de plus en plus les marchés. La décision de Donald Trump d'engager le bras de fer ne semble néanmoins pas effrayer Pékin qui ne refuse pas la confrontation. C'est à se demander si Washington n'a peut-être pas un peu surestimé son pouvoir de pression et sous-estimé la puissance chinoise. Le leadership américain existe-t-il toujours? C'est la question du jour. Et pour en parler, deux invités sont avec nous en studio. Jean-François Dimiglio, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes président d'Asia Centre, enseignant à l'Université Paris-Dauphine et à la Public School of International Affairs de Paris. Et Elvire Fabry, bonjour.
Bonsoir.
Vous êtes chercheuse à l'Institut Jacques Delors de Paris, experte en politique commerciale. Quand il a été élu, Donald Trump avait annoncé qu'il allait mettre la Chine à la raison et contrer son poids grandissant, aussi bien économique que technologique, politique et stratégique. Il a manifestement trouvé à qui parler puisque aux mesures de Washington se sont opposées très rapidement des mesures de rétorsion commerciale venues de Pékin. La Chine relève le défi, Elvire Fabry.
Oui, tout à fait. La Chine est devenue une puissance commerciale de fait, d'abord par la taille de son économie, est devenue le premier exportateur de biens. Donc elle a une assise sur son marché qui lui permet aujourd'hui de chercher à promouvoir ses propres standards, ses propres règles à travers le monde. Et elle développe même une vision alternative du multilatéralisme tel qu'il a été encadré par les règles de l'OMC. Alors c'est vrai qu'aujourd'hui le défi américain, c'est de vouloir non seulement contenir cette puissance, mais au contraire la repousser. Et c'est à la fois, on parle beaucoup de guerre commerciale, mais c'est aussi une guerre technologique. C'est finalement une confrontation à double niveau qui s'est engagée et avec la volonté américaine non seulement de maintenir mais de retrouver un certain leadership dans un certain nombre de secteurs qui sont devenus aujourd'hui décisifs pour les grands enjeux technologiques de demain.
Jean-François Dimiglio, est-ce que les États-Unis commençaient à se sentir dépassés? Est-ce qu'ils ont voulu retenir un peu la Chine sur ce chemin?
Il y avait certainement un impact du plan 2025, si on parle de technologie. La Chine avait lancé son plan 2025 au début du mandat de Xi Jinping, et ce plan, c'est effectivement acquérir dans un certain nombre de secteurs de haute technologie pour la Chine un leadership mondial. Il y a beaucoup d'effets d'annonce dans ce plan, mais il a effectivement eu un impact. Il faut aussi remettre en perspective cette guerre commerciale avec ce qui s'était passé avant Trump. Trump n'est pas le premier à vouloir contenir d'un point de vue commercial la Chine. Le traité transpacifique qu'Obama avait voulu instaurer, c'était déjà une arme contre la Chine. Alors, Trump utilise des mots plus violents. Il va plus loin, effectivement, dans l'attaque concernant le ralentissement de la technologie chinoise. Il est le seul à parler aussi fort, et les Européens auraient pu finalement parler aussi fort, mais lui le fait. Mais il n'est pas non plus le premier à adopter cet angle vis-à-vis de la Chine. Il est dans une continuité, pas une continuité de vocabulaire, mais une continuité d'action.
On se trompe si on se dit qu'à une certaine époque, en gros après la chute du bloc soviétique, Elvire Fabry, un simple haussement de sourcil américain aurait provoqué une discussion raisonnable. On se serait tous mis autour d'une table pour essayer d'avoir un accord qui satisfasse tout le monde, ou est-ce que c'est peut-être fantasmé ce que je suis en train de dire?
Non, c'est une réalité. Et puis faut vous évoquer justement la chute du mur vient juste après la création de l'OMC, encore une fois de cette charpente de règles multilatérales qui notamment au sein de l'institution a un organe de règlement des différends. Dans lequel les Américains ont joué un rôle clé dans la définition de ce muscle qui permet d'équilibrer les rapports commerciaux. Là maintenant, ce qui est très différent aujourd'hui, c'est que avec Donald Trump, on a une logique unilatérale de confrontation avec les États-Unis qui ne veulent plus jouer dans le cadre de ces réglementations multilatérales, mais qui joue la confrontation unilatérale, le chantage, les mesures de rétorsion, l'intimidation. Donc là, c'est vrai que la logique de Donald Trump, c'est d'engager toute cette puissance, ce rapport de force directement. Et comme vous l'évoquiez au début, la résistance de la Chine, la question actuelle qu'on est amené à se poser, c'est de savoir quelle est la capacité de résilience côté chinois. On voit qu'ils sont dans une logique qui n'est pas forcément une logique d'escalade, une logique de réponse immédiate. Ils ont préparé leur réponse.
Mais proportionnée.
Exactement. Ils n'ont pas, là, dans les dernières mesures de rétorsion qu'ils ont affichées face aux annonces de Donald Trump, ils ont décidé d'imposer d'augmenter les tarifs, pas sur l'ensemble des importations américaines en Chine. Il y a un tiers de ces importations qui n'est pas couvert parce qu'ils veulent ménager leur propre économie. Et également donner la possibilité d'éviter une escalade plus critique.
Ce qui m'amène à une question logique. Qui a le plus souffert pour l'instant dans cette guerre commerciale, Jean-François Dimiglio?
Ah, écoutez, quand on regarde Wall Street, quand on regarde les taux de croissance américains, quand on regarde le taux de chômage américain et quand on regarde le ralentissement beaucoup plus fort de la croissance chinoise par rapport à l'atterrissage en douceur que les dirigeants chinois voulaient orchestrer, il est clair qu'aujourd'hui, dans le court terme, ce sera une autre question plus tard probablement dans la discussion, dans le moyen terme et dans le long terme, aujourd'hui, la Chine souffre de l'effet des sanctions américaines.
Qui a le plus à perdre? Est-ce que effectivement à plus long terme ça peut s'équilibrer, Elvire Fabry?
On voit celui qui a le plus à perdre, je dirais, à court terme, c'est plus sur le plan politique, c'est Donald Trump, qui est quand même en situation préélectorale. Et là, c'est une pression quand même très forte qui va s'exercer sur lui d'ici quelques mois. On ne sait pas quoi attendre encore des négociations qui vont se dérouler dans les prochains jours. Mais on ne s'attend pas forcément à des décisions extraordinaires. On voit quand même qu'on est en train de s'installer dans une confrontation structurelle. Et toute la question, c'est de savoir si... On s'était déjà posé la question au printemps dernier, mais est-ce que Trump peut se contenter d'un petit scalp en vue de la campagne électorale, ou est-ce que, comme il l'a dit, il veut une négociation sérieuse? Et en fait, une négociation sérieuse, ça veut dire quand même une acceptation côté chinois de réformes en profondeur du système économique chinois, parce que au cœur de cette confrontation, il y a la question des subventions chinoises, des entreprises d'État chinoises qui bénéficient d'une capacité de subvention, on va dire pratiquement indéfinie, et qui crée des distorsions par rapport à la concurrence, à la fois en interne et en externe sur les marchés étrangers.
Jean-François Dimiglio, vous voulez ajouter quelque chose?
Je suis tout à fait d'accord sur le côté graduel de la réponse chinoise, bien sûr l'impact sur les élections américaines, et je dirais que cet impact sur les élections américaines, il est double. Il est évident que chaque geste de Donald Trump est dirigé avant tout vers son électorat potentiel. Et la dimension nouvelle qu'on voit apparaître, en particulier devant l'abandon par la Chine d'un certain nombre de sanctions sur des importations alimentaires venant des États-Unis, en particulier de soja, c'est on a l'impression que peut-être la Chine aimerait jouer un rôle. On sait qu'elle aimerait jouer un rôle dans les élections américaines. Bien sûr que Trump a à perdre s'il est battu, ça c'est tout à fait clair. La question suivante, si vous me permettez, c'est quel est le candidat que la Chine préfère? Et en fonction de ça, et là, j'ai pas tout à fait la réponse, mais j'ai des arguments pour dire elle préfère peut-être celui-ci ou celui-là. Il y a une grande constante dans l'approche parfois maladroite et parfois très subtile des démocraties par la Chine, c'est on préfère très souvent celui qu'on connaît par rapport à celui qu'on ne connaît pas. Trump est revêtu de tous les atours désagréables pour la Chine. Néanmoins, la Chine ne sait pas qui elle pourrait avoir à la place de Trump. Et quand on se souvient qu'Obama était probablement aussi hostile, mais ne le disait pas de façon aussi forte, hostile vis-à-vis de la Chine, je pense que il y a une question sur ces concessions que la Chine vient de faire. Est-ce qu'elles sont plutôt de nature à aider l'électorat de Trump et à dire finalement essayons de continuer quand même avec ce type-là, même s'il est désagréable, et finalement il affaiblit tellement à long terme les États-Unis, parce qu'il y a le long terme aussi, que l'avoir dans notre poche pendant encore 4 ans, et puis ensuite avoir une Amérique qui est relativement affaiblie aux yeux de ses partenaires au bout de ces 4 ans-là, c'est peut-être le meilleur pari. Je ne veux pas mettre d'idées dans la tête des Chinois, je suis bien incapable, je ne veux pas non plus mettre de gestes dans leur comportement, c'est très difficile, mais je pense que ça fait partie aussi de l'analyse qu'il faut faire de ce débat.
Qu'est-ce que vous en pensez, Elvire Fabry? On sait ce qu'on perd, on ne sait pas ce qu'on gagne, c'est ce qu'il y a dans la tête des dirigeants chinois actuellement?
Mais ce qui est certain, c'est que dans la façon dont Trump a décidé de s'engager, d'affronter, on va dire, la Chine, il a obtenu un soutien transpartisan, à la fois du côté des républicains et en même temps du côté des démocrates. Alors que, par ailleurs, on sait que du côté démocrate, il y avait plus de critiques dans la façon dont il s'en est pris aux Européens, dont il s'en est pris aux Canadiens.
Il a libéré la parole des démocrates d'une certaine façon.
Absolument. Il y a un soutien transpartisan, et au-delà de Trump, la question aujourd'hui, c'est de savoir comment évolue, en fait, quelles sont les tendances de fond de l'opinion publique américaine vis-à-vis à la fois de l'ouverture commerciale, de la Chine, enfin de tous ces enjeux. J'ai tendance quand même un petit peu à penser que vu de Pékin, la stratégie actuelle, c'est aussi déjà de se dire s'il faut passer par un deuxième mandat de Trump, il faudra qu'on fasse avec, et à regarder déjà au-delà. Donc déjà à se dire comment tenir finalement le temps d'un deuxième mandat, mais tout en sachant que si Trump est réélu, il y a des enjeux d'application d'extraterritorialité de manière beaucoup plus systématique qui sont en mesure de perturber quand même beaucoup plus profondément toutes les chaînes de valeur, créer beaucoup plus d'incertitudes pour les investissements, et qui là serait un facteur de déstabilisation du commerce international qui n'est pas bénéfique pour la Chine, pour personne de toute façon.
De mémoire, la plus grande amende liée à l'extraterritorialité et au rôle du dollar dans le monde, elle n'a pas été imposée par les États-Unis sous le mandat de Trump. Les 9 milliards que BNP Paribas a dû payer, il ne me semble pas que ce soit sous le mandat de Trump. Donc je pense que c'est une constante lourde de la politique américaine. Effectivement, cette extraterritorialité est un marqueur fort, mais ce n'est pas un marqueur qui est appelé à diminuer.
On va revenir, si vous le voulez bien, sur l'influence, sur l'opinion de ce qui se passe dans le commerce et avec la Chine en particulier. Il y a des taxes américaines sur des produits chinois qui devaient entrer en vigueur cet automne, qui ont été reportées au 15 décembre, sous l'influence de grands patrons américains, notamment celui d'Apple, qui s'inquiète d'une augmentation des prix de sa production, qui est très majoritairement situé en Chine. Donald Trump est-il en train de réaliser que l'économie américaine est davantage dépendante de la production chinoise qu'il ne l'imaginait, Jean-François Dimiglio?
Il a des interlocuteurs qui font le siège de son bureau et qui lui disent vous savez, nous on a voté pour vous, en tout cas on votera peut-être pour vous.
Pas mais le patron d'Apple, je crois pas, mais bon.
Mais on est capable d'avoir une petite influence en retour. Ce qui vient d'être décidé, c'est de barrer la route à des investisseurs chinois, 28 investisseurs chinois, qui n'auront plus le droit de venir investir aux États-Unis. Et donc ça, c'est clairement une réponse à ces gens-là. Donc votre concurrence, elle était en Chine, elle était en train d'arriver chez vous, elle va peut-être se voir l'entrée aux États-Unis barrée. Mais ce que vous dites est tout à fait exact. Il y a un jeu potentiellement perdant à réduire effectivement la capacité à importer bon marché.
Les gens s'inquiètent aux États-Unis, Elvire Fabry, de la tournure que ça prend. On voit qu'à Wall Street, jour après jour, notamment depuis une dizaine de jours, il y a une vraie inquiétude.
Si on prend l'opinion publique au sens large, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas eu le sentiment de sentir de manière très forte l'augmentation des tarifs, parce que c'était beaucoup sur des produits intermédiaires, beaucoup plus que sur les produits finaux de consommation. Maintenant, ce que vous évoquiez tout à l'heure, à partir du 15 décembre, ça concernerait l'ensemble des produits de consommation courante, les vêtements, les chaussures, les jouets, et alors là, ça va devenir beaucoup plus significatif pour la consommation.
C'est pas très bon pour le pouvoir d'achat des Américains.
Oui,
c'est
alors, ce que vous non. Avez... Et à un moment où on commence à voir des petits signaux de ralentissement un peu de la consommation, quelques petits signaux d'inquiétude sur l'évolution de l'économie américaine, risque de récession ou pas, à quel horizon. Voilà, c'est une convergence, on va dire, de signaux de signaux un peu plus significatifs.
Pendant ce temps-là, le dollar s'est renforcé contre le RMB, contre la devise chinoise. Alors c'est en partie délibéré du côté chinois.
Oui, on a aussi laissé filer la monnaie un petit peu.
Laissé filer la monnaie. Alors ils sont un peu dans une impasse, parce que trop laisser filer la monnaie, c'est-à-dire aussi perdre la crédibilité de cette politique monétaire qui a acquis beaucoup de crédibilité. Néanmoins, ça abaisse forcément les prix à l'import. Le dollar est relativement fort en ce moment, il est fort par rapport à l'euro, il est encore plus fort par rapport à la devise chinoise, et donc ça facilite aussi l'achat par les Américains de produits qui viennent de l'extérieur.
Est-ce qu'il n'y a pas un côté pour Xi Jinping, une occasion d'affirmer son poids à la fois économique et peut-être pas seulement en disant, bah voilà, Donald Trump veut nous mettre à la raison, on peut jouer. On a de quoi répondre. Il y a aussi un côté, une affirmation un peu politique, Edvire Fabry.
Il y a une affirmation politique, mais en même temps, il n'est pas attendu au tournant que par les Américains. Il y a les Européens actuellement qui ont effectué, on va dire, un sursaut stratégique à Bruxelles, en tout cas au printemps dernier. Maintenant, il faut que tous les États membres aussi se coalisent autour de ce projet de où on a imposé un certain nombre d'exigences aussi côté chinois. Et ce que ça veut dire, c'est que si actuellement les Européens n'ont pas été aussi offensifs vis-à-vis de la Chine et cherchent plutôt un terrain de coopération, en revanche, ils pourraient être amenés aussi à durcir le ton, à se fermer davantage. Et pour le coup, si pour la Chine, si le marché européen venait aussi à se fermer en plus d'une fermeture du marché américain, ce serait très préoccupant, parce que ce sont les deux principales destinations des exportations chinoises.
Alors, je vais rebondir là-dessus, parce que ça peut peut-être donner des idées aux Européens, notamment le conflit entre les États-Unis et l'Europe sur les subventions aéronautiques semble être en train de s'envenimer, Jean-François Di Meglio. Est-ce que les Européens peuvent prendre exemple sur les Chinois et dire... On va relever le gant de Donald Trump.
Comme on l'a dit, déjà, les Chinois relèvent gentiment le gant. Ils protègent leurs intérêts. Il ne faut pas oublier, par ailleurs, qu'il y a il y a deux dissymétries fondamentales entre la relation Europe-Chine et la relation US-Chine. Le premier, c'est que la Chine, c'est un pays non seulement unifié, mais qui a un pouvoir fort. L'Europe, c'est quand même encore 27 pays qui ne sont pas tous d'accord, même si, comme vous l'avez très justement dit, il y a un effort de cohésion qu'il faut saluer, mais qui est encore très très partiel. C'est la première différence entre les deux relations. Et puis l'ampleur du déficit et l'ampleur du commerce. Alors l'Europe est un partenaire extrêmement important pour la Chine, naturellement, mais c'est quand même les États-Unis qui sont le premier excédent commercial pour la Chine. Donc c'est pas exactement la même situation. L'Europe a les moyens. Est-ce qu'elle veut vraiment se donner les moyens? Heureusement, vous êtes là pour donner les arguments. Effectivement, je crois que le travail que vous faites à l'Institut Jacques Delors, c'est tout à fait dans ce sens-là. Il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Il y a aussi des complémentarités à jouer. Et je pense que ces complémentarités, elles joueront d'autant mieux qu'on aura parlé un peu plus fort à la Chine. Parce que ce serait absurde, effectivement, de ne pas identifier ces complémentarités qui sont probablement beaucoup plus fortes que celles qui existent entre les États-Unis et la Chine.
Monsieur Fabry.
Là où les Européens ont un rôle clé aujourd'hui à jouer, c'est que pour maintenir les États-Unis à l'OMC et, encore une fois, préserver cette charpente de règles multilatérales, et qu'on a besoin de développer dans toute une série de domaines, le e-commerce, en matière d'investissement, enfin dans plein de secteurs.
Imposer un arrimage transatlantique aux États-Unis, en fait, c'est ça.
Oui, absolument. Et pour ça, il faut réussir à ramener les Chinois à la table des négociations. Donc on a un rôle pour essayer de remettre autour de la table les partenaires et essayer de se mettre d'accord sur un certain nombre de règles. Et là, on revient notamment à la question des subventions.
Le leadership, ce n'est pas qu'économique, c'est aussi stratégique et militaire. Donald Trump veut manifestement éviter désormais les confrontations. On le voit dans la péninsule coréenne, dans le golfe Persique. Ça fait aussi un moment qu'il demande aux Européens de prendre leurs responsabilités. Alors, on a très peu de temps. Ça envoie quel type de message, Jean-François Di Meglio?
Ça envoie, encore une fois, un message principal à son électorat. Il y a un électorat qui est très très préoccupé par ce qui est arrivé effectivement à travers l'engagement en Irak, et donc il y a un électorat qui, auprès de qui il veut apparaître comme celui qui recentre les dépenses et qui recentre les efforts américains. Au-delà de ça, l'impact est aujourd'hui assez limité. Mais c'est avant tout, il faut voir Trump avant tout comme quelqu'un qui est en campagne électorale aujourd'hui.
Merci Jean-François Di Meglio, merci à vous Elvire Fabry d'avoir participé à cette émission. Merci à toute l'équipe du débat du jour, Florence Ponce à la coordination, Simon Carteret à la documentation et à la réalisation aujourd'hui, Valentin Vaner. Vous pouvez nous retrouver, nous réécouter, nous podcaster sur RFI.fr et sur nos applications mobiles comme RFI Pure Radio, rubrique émission. Vous pouvez aussi participer au débat sur les réseaux sociaux. Prochain débat demain, même heure, même endroit. Bonjour chez vous.